Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferbeuf.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Valérie Lorenz Poinceau, qui est directrice générale des laboratoires Boiron et également coprésidente du club ETI Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Valérie.
Bonjour.
C'est un plaisir de t'accueillir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. On est vraiment ravis et honorés de t'avoir parmi nous. Hein. Tu es la directrice générale du groupe Boiron. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous redire ton parcours en quelques lignes avant d'arriver à Boiron ?
Bien sûr, donc je suis une femme de communication, donc j'ai commencé après une maîtrise de marketing et de gestion, j'ai commencé ma carrière dans la publicité, donc chez Publicis, et ensuite j'ai travaillé pour deux laboratoires assez connus, laboratoire Fournier et puis surtout le laboratoire Urgo, avant de rejoindre l'entreprise Boiron, et ça fait aujourd'hui 23 ans que je travaille pour ce laboratoire, avec à chaque fois des évolutions assez rapides. Je me suis occupée au départ du marketing médical, puis du développement médical, puis j'ai été très vite en 2007 directrice générale adjointe, puis directrice générale déléguée, puis depuis 2019, j'ai eu la joie de prendre la suite de Monsieur Christian Boiron, qui a pris sa retraite, et donc depuis 2019, comme vous l'avez dit, je dirige ce laboratoire.
Ok. Comment expliques-tu ton virage dans la santé ? Qu'est-ce qui a fait finalement que tu t'es dirigée dans ce nouveau secteur après la communication ?
Ça a toujours été un secteur qui m'a passionnée. Si je n'avais pas fait mes études de marketing et de gestion à l'IE Dijon, je pense que j'aurais fait plutôt médecine ou kiné. D'ailleurs, j'ai trois enfants et j'ai deux enfants qui sont kinésithérapeutes. Donc, ça prouve que voilà, dans la famille, il y avait cette envie de s'occuper de la santé. J'ai toujours étudié la santé, en fait, à titre personnel depuis toute petite, parce que dans mon histoire personnelle, il y a eu des petits accidents de parcours avec la santé.
D'accord.
Donc, ce qui fait que je m'y suis beaucoup intéressée à l'hygiène de vie, à beaucoup de choses en santé. Et naturellement, quand j'ai travaillé chez Publicis, un de mes clients était le laboratoire Fournier. Et donc, c'est comme ça que ce client m'a demandé de le rejoindre.
Ah, super.
Et la boucle est bouclée.
Et bah, parfait. Alors, on voulait aussi t'inviter parce que tu es une patronne très engagée. On sait que tu es très investie dans tout ce qui est Women Empowerment. J'ai vu aussi toutes tes parutions sur LinkedIn. Il y a eu évidemment la Journée internationale des droits de la femme où tu as aussi une prise de parole. Peut-être un petit paragraphe avant d'aller sur Boiron sur cet aspect engagé qui te caractérise sur un registre personnel.
Absolument. En fait, il y a quelques années, une de mes collaboratrices m'a demandé d'intervenir pour parler de mon management au féminin. Et je dois vous confier qu'au premier abord, j'ai été assez surprise. J'ai dit, mais pourquoi mon management au féminin ? Il n'y a pas de sujet. Enfin, je voyais pas le sujet. Mais ça, c'était, je vous dis ça, il y a plus de 10 ans. Et en fait, quand je suis allée introduire ce séminaire avec des femmes, je me suis rendu compte qu'il y avait bel et bien un sujet. Et que moi, peut-être, je m'en étais pas rendu compte parce que à chaque fois que j'avais eu des embûches, ben en fait, je disais le chien boit la caravane passe. Mais en fait, ça a été possible pour moi. Ça n'a pas été facile, mais c'était possible. Alors que pour d'autres personnes, j'ai bien pu constater qu'il y avait des difficultés. Et je me suis dit, comme je dis souvent d'ailleurs, 1 + 1 = 11. Donc pour moi, un homme et une femme, ben ça donnera pas 3. ça donnera pas deux, pardon. Ça donnera trois. Pas trois non plus, ça donnera même 11. Donc en fait, je suis persuadée que voilà, la mixité, la diversité, comme la diversité fait la force, la mixité, voire la parité font la force. Et donc je me suis engagée il y a plus de 10 ans pour à la fois faire savoir que c'était une chance d'avoir des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes. Et deuxièmement, je me suis aussi dit que j'allais donner de mon temps pour aider les jeunes, pour aider d'autres femmes qui pouvaient être en difficulté. Et donc, c'est ce que je fais aujourd'hui, vraiment dans mon quotidien.
Eh ben, bravo à toi, c'est un parcours qui est riche en plus de ton volet direction et management. Alors on va parler de Boiron, c'est bien sûr une société qui est connue, qui est dans l'univers de la santé et de la pharma. Je crois que tu aimes bien faire un petit peu d'histoire, il y a un peu de storytelling sur Boiron, c'est le thème de l'Entertainment Lab. Est-ce que tu veux redire un peu ce qui caractérise cette entreprise, un peu son ADN et de cette boîte qui quand même a près de 1800 personnes, donc c'est un grand groupe français.
Tout à fait. En fait, 1800 personnes en France, mais on est 2700 au niveau international. En fait, l'entreprise Boiron, faut savoir qu'elle est née en 1932 avec deux frères, Jean et Henri Boiron. Et cette entreprise, elle a été créée à la demande des médecins et des pharmaciens. En fait, à l'époque, il y avait des médecins, comme c'est le cas d'ailleurs encore aujourd'hui, par exemple en Inde ou au Brésil, il y avait des médecins et des pharmaciens qui fabriquaient eux-mêmes le médicament homéopathique. Et en fait, on le sait, si nous-mêmes on fait, on va prendre l'exemple d'un plat en cuisine, on va essayer de prendre la même recette, mais des fois, ça n'a pas toujours le même, un gâteau ne va pas lever de la même manière, il n'y aura pas forcément le même assaisonnement, etc. C'est dur d'avoir une fiabilité et une reproductibilité de ce que l'on peut faire à la main. D'accord. Donc, ce qui fait que pour le monde du médicament, puisque l'homéopathie est un médicament, il fallait qu'il y ait aussi cette fiabilité et cette reproductibilité. C'est pourquoi les médecins sont allés voir les frères Boiron, qui étaient deux pharmaciens, pour leur demander de travailler sur la mise en œuvre d'un laboratoire, la mise en route d'un laboratoire qui permette de garantir cette fiabilité du médicament homéopathique pour qu'on soit sûr qu'il y a toujours la bonne plante. Parce que, vous voyez, dans la nature, il y a des plantes qui se ressemblent. Donc, vous pouvez confondre l'arnica avec une autre plante, avec une belle fleur jaune. Eh bien non, il faut prendre la bonne plante qui répond à l'exigence de la pharmacopée et ensuite faire toujours le même geste, avoir les mêmes exigences pour que chaque patient ait toujours le même médicament et chaque professionnel santé pour avoir la même efficacité. Donc, et c'est ce que les frères Boiron ont fait et c'est ce qui a accompagné l'entreprise jusqu'à aujourd'hui avec des machines qui sont uniques, un process qui est donc le process de la pharmacopée, et ce sont donc les frères Boiron qui ont inscrit l'homéopathie à la pharmacopée en 1965. Donc la pharmacopée, c'est quoi? C'est la manière de produire un médicament. En fait, on va décrire le process. Donc eux, ils ont contribué à décrire le process. Ils ont contribué aussi à faire fabriquer, alors beaucoup en Allemagne, des machines qui sont uniques pour fabriquer nos médicaments. Et puis voilà, et ensuite on a contribué à la réglementation du médicament homéopathique. Aujourd'hui, on a une réglementation européenne, etc., etc. Donc vous voyez, ça l'histoire de l'homéopathie a été vraiment très marquée avec l'arrivée des frères Boiron qui ont contribué sur le plan industriel, sur le plan réglementaire et aussi sur le plan scientifique puisqu'ils ont fait beaucoup de recherches pour en arriver où ils sont aujourd'hui.
Bon, donc c'est cet ADN à la fois nature et santé avec des produits de haute qualité et puis aujourd'hui une société qui est en pointe, c'est-à-dire en France mais aussi à l'international. Je crois qu'il est assez emblématique aussi du développement de la région Rhône-Alpes où toi tu es très impliqué d'ailleurs. Et je crois qu'il y a deux exemples que tu aimes bien. Bon, il y a un produit très connu que tu vas peut-être mentionner qu'on associe souvent à Boiron et aussi une actu un peu inédite. Tu peux peut-être nous parler un peu de quelques actus liés à Boiron.
À Boiron. Alors déjà, il est vrai que Boiron, c'est un leader de l'homéopathie. Et ça, c'est vrai qu'on est un leader incontesté à travers le monde, moi, qui ai l'occasion de voyager. Boiron est une référence et un gage de sécurité et de fiabilité. Donc ça, c'est une première chose. Et on va continuer à développer les médicaments homéopathiques. Alors je pense que vous parliez de l'oscillococcinum, par exemple.
Oui,
c'est vrai qu'il y a la star standards du laboratoire, mais il y a aussi l'arnica. Enfin, il y a très récemment, il y a des médicaments qui sont très utiles pour les enfants, hein, notamment, je pense à Varisol pour la varicelle. C'est un médicament très récent et souvent les papas, les mamans sont un peu démunis quand les enfants ont la varicelle. Ben ça peut les aider à éviter que les enfants se grattent et des cicatrices, etc. Bon, je donne ces exemples, ça sont des exemples en homéopathie. Mais récemment, on a décidé de diversifier l'entreprise avec d'autres types de médicaments, donc d'autres types de produits, pardon. On peut avoir des compléments alimentaires, des cosmétiques. Et puis, encore plus récemment, on a décidé de s'occuper d'une plante que les auditeurs vont connaître, hein, parce qu'elle est connue sur le plan international. Cette plante, il s'agit du cannabis. Donc, c'est une plante qui a beaucoup de variétés, alors que bien évidemment, on connaît avec des vertus, on va dire, récréatives. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est avec ma casquette de laboratoire santé. Pharmaceutique et santé.
Même si c'est l'Entertainment Lab et qu'il y a un peu de récréation.
Ouais, voilà. En fait, cette plante, c'est une médecine. Hein. En fait, elle est capable de traiter un certain nombre de maux, puisqu'elle a à l'intérieur d'elle différents composants, dont deux qui sont très connus, le CBD et le THC. Alors souvent, les patients confondent, hein, quand on parle du cannabis, ils pensent parfois au CBD. Quand on parle du CBD, ils pensent au cannabis avec du THC. C'est quoi la différence? En fait, le CBD, qui est une partie de la plante, c'est la partie non stupéfiante de la plante. Donc, ce n'est pas un stupéfiant, le CBD. Et c'est déjà autorisé en France sous différentes formes, notamment en forme de cosmétiques. C'est pourquoi, depuis 18 mois, nous avons déjà dans notre catalogue et notre portefeuille de produits des gels, des crèmes à base de CBD. Mais attention, c'est pas les crèmes que vous allez trouver navré pour de dire que ça comme ça, mais dans un CBD shop. En fait, ce sont des crèmes.
C'est pas Amsterdam.
Amsterdam. En fait, on est dans un laboratoire pharmaceutique et donc nos crèmes sont fabriquées avec les méthodes pharmaceutiques. Et ça garantit bien sûr l'innocuité, mais ça garantit la qualité, la fiabilité, la reproductibilité et l'efficacité du coup du produit. Voilà, donc ces crèmes, elles ont été lancées il y a un an et demi et elles permettent de soulager les douleurs, de soulager les tensions musculaires avec souvent des douleurs qui ont une tendance à être neurologiques. Donc ça, c'est vraiment nouveau pour l'entreprise d'utiliser cette plante parce qu'il faut savoir que cette plante n'était plus à la nomenclature française. Elle n'était plus autorisée en France depuis 1979. Et il s'avère qu'il y a donc 2 ans, la plante a à nouveau été autorisée. La partie de la plante CBD a à nouveau été autorisée en France. D'accord. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a l'autre partie. Il y a la partie stupéfiante. Ben oui, j'y viens. En fait, on travaille depuis 3 ans avec l'Agence du médicament français dans le cadre d'une expérimentation dont vous avez peut-être entendu tous parler, parce que les patients qui en ont besoin, comme les patients qui ont des grosses douleurs neuropathiques, qui ont de la sclérose en plaques, de l'épilepsie ou des douleurs liées à des traitements ou à des cancers ou des douleurs de fin de vie, en fait, ces patients-là pouvaient rentrer depuis 3 ans dans une étude menée en France pour permettre demain, donc le demain c'est bientôt là, hein, c'est cette année, d'avoir des médicaments en France à base de cannabis. Donc là, je précise bien de cannabis, c'est-à-dire avec la partie stupéfiante de la plante, mais tout ça avec un cadre réglementaire et un cadre pharmaceutique bien organisé. Voilà, et c'est ça qu'on est en train de faire aussi chez Boiron et qu'on aimerait lancer quand ça sera possible.
Donc, on voit bien cette dimension de pionnier. Et puis, bon, c'est quand même si comme ça peut détonner le terme cannabis. Comme tu dis, c'est très important pour des gens qui peuvent avoir des très graves maladies et qui ont besoin d'être soulagés. Et on imagine qu'il n'y a pas non plus 10 000 types de produits qui peuvent avoir ce type de vertu. Voilà, donc c'est le lien aussi à l'homéopathie que tu as donné tout à l'heure. Peut-être pour parler alors là un peu plus de storytelling, parce que c'est ton début aussi de ton métier dans la communication, puisque tu as travaillé finalement la communication et la santé. Comment tu vois un peu ce métier de communication dans l'univers de la santé, parce qu'il y a des enjeux un peu grand public, il y a des enjeux digitaux qui deviennent forcément très importants, comme dans de nombreuses industries actuellement. Voilà, peut-être aussi un peu d'influence digitale et d'une communication santé qui peut parfois être un peu plus réglementée. Voilà, comment tu vois cet aspect de toucher le consommateur avec des nouveaux formats?
Alors déjà, je pense que la communication, déjà au sens large vis-à-vis du patient en termes de santé, est extrêmement importante. Et pour moi, c'est comme fabriquer un médicament, il faut que ça soit une communication de qualité et extrêmement fiable. Pourquoi plus aujourd'hui qu'hier? Parce qu'en fait, il y a, et ça vous serez tous d'accord avec moi, il y a moins de médecins. Certes, il y a des pharmaciens, mais ils sont très occupés, hein, parce que le pharmacien peut aussi vraiment largement conseiller, mais il est très occupé. Il a été très occupé les dernières années avec la Covid. Donc, ce qui fait que le patient, bah, parfois, il se retrouve un peu seul. Parce que il doit attendre longtemps pour avoir un rendez-vous chez un médecin, il doit attendre très longtemps pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde docteur Internet, docteur Google, une marque de, je vais peut-être pas toutes les citer, mais une marque qui donne de l'information sur le net. Donc, ou alors il va demander à son ami, sa famille, etc. Donc, mais la famille, il faut bien qu'elle se renseigne quelque part. Donc, la presse, l'Internet, la radio, les émissions de télé, enfin, tout ce qui, permet de donner de l'information et des conseils, va être extrêmement précieux pour le patient. Donc, moi, j'y suis favorable, encore une fois, parce qu'il y a un besoin. Après, il faut que ça soit une information complètement validée, vérifiée, parce que il y a des enjeux de santé publique. Donc, il faut pas raconter n'importe quoi au patient. Il faut qu'il puisse avoir des références, lui aussi, auxquelles il aura confiance en se disant, je sais que c'est une bonne information, je sais qu'elle va être fiable et je peux me compter sur cette information pour m'aider pour ma santé.
D'accord. Et donc, tout le mouvement qui se passe aussi sur toutes les émissions, maintenant, qui démocratise un peu ces communications santé avec certains médecins un peu plus médiatiques, tout ça, tu trouves ça bien quand même? Ça permet de démocratiser? Tu dirais oui, si, à condition que ça soit quand même le contenu qualitatif.
Qualitatif. Là aussi, on parlait à l'instant du cannabis. C'est vrai que le système endocannabinoïde est récent. En termes de santé, il a été découvert dans les années 90. Donc déjà, il faudra former les médecins et aussi éclairer le patient. Parce que il faut pas utiliser n'importe comment cette plante. Donc, ce qui est vrai pour ce que j'ai expliqué sur le cannabis, où il faudra une information et une éducation des médecins fiable et une éducation des patients aussi fiable, c'est vrai pour d'autres pans de la médecine et d'autres types de médicaments.
Bien sûr. Tout ce qui se développe autour de l'influence digitale, même en t'écoutant, je pensais à l'e-learning ou des nouveaux formats vidéo, tout ça, tu y crois beaucoup pour amener quelque chose de plus spécialisé, de plus interactif?
Absolument, parce que faut savoir aussi, mais tu le sais mieux que moi, mais les personnes aujourd'hui prennent moins le temps de lire. Il faut que ça aille vite. Alors, donc il faut des formats qui soient rapidement accessibles, compréhensible, et donc c'est pas forcément la lecture, ça peut être l'audio, ça peut être les films, les mini-films, donc oui, la vidéo en fait partie aussi.
Comme le format qu'on enregistre maintenant.
Comme le format qu'on enregistre maintenant.
Qui a un ton où on a la chance de t'avoir et qui n'est peut-être pas une interview très codifiée de quelques minutes. Et on sent beaucoup plus, comme tu le dis, l'authenticité, ton parcours et tout ce qui transparaît évidemment dans la voix. Une petite question de curiosité, parce qu'en t'écoutant, je me disais, il y a les groupes pharma, on prend ça à Boiron, puis après, il va y avoir des produits. Ça, ce n'est pas si évident, j'imagine, d'avoir une attribution à une marque comme Boiron. Mais tu as des produits très connus ensuite qu'on va commercialiser. Comment tu vois la marque dans l'univers de la santé? Désolé, je m'apprêtais pas à te la poser, mais forcément, elle me vient à l'esprit parce que je me dis, tous ces labos, on les connaît, mais ils sont forcément un peu moins connus, c'est des marques corporate. Et en même temps, il y a des produits, comme tu as mentionné tout à l'heure, ou des initiatives qu'il va falloir commercialiser. Comment tu vois un peu ce petit distinguo?
Déjà, je pense que ça dépend du labo. Il y a des laboratoires qui ont des noms connus, et puis il y a des laboratoires qui ont des noms qui sont moins connus. Après, dans les laboratoires, il y a des produits qui sont connus et d'autres qui sont moins connus. Pour nous, chez Boiron, bah, les deux sont connus. Boiron est connu parce que bah, Boiron, beaucoup de personnes savent que c'est se soigner en toute sécurité, se soigner avec respect, et beaucoup de personnes connaissent l'homéopathie. Mais aussi, beaucoup de personnes attribuent des médicaments ou des produits naturels à Boiron que Boiron ne fait pas forcément. Mais en tout cas, ça veut dire que Boiron est
oui,
une marque.
Oui, la marque est déjà connue, ce qui n'est pas le cas des autres labos. Oui.
Tu vois, c'est comme Décathlon, on sait que c'est associé au sport. Il y a certaines marques de sport, ça va être le sport extrême. Bah, nous, ça va être la santé naturelle.
Santé naturelle.
Santé naturelle, même si tout n'est pas forcément tout naturel. Hein. On a des souches qui peuvent être chimiques, on peut avoir. Mais en tout cas, le résultat est naturel. C'est-à-dire que le résultat dans l'esprit des personnes va permettre d'avoir un soin qui ne va pas vous nuire et qui ne va pas nuire à votre santé. Hein. Bon, donc, bah, ça, effectivement, c'est l'ADN de la marque. Et après, ça n'empêche pas d'avoir des marques dans la marque. Hein. Comme Oscillo, comme Sédatif PC, comme voilà, des marques effectivement connues.
Donc, on arrive dans la dernière partie du podcast. Moi, j'avais une petite question quand même. C'est la question que je pose toujours aux invités sur les goûts en matière de création. Donc, c'est là où on sort un peu de l'univers de la santé. On va y revenir ensuite pour la dernière question. Mais c'était goûts en matière de lecture, cinéma, pièces de théâtre, séries. Voilà, c'est tout ce qui peut, toi, justement, bah, te nourrir en termes de création, en plus de ton métier, je dirais.
Alors, moi, en fait, j'ai trois catégories, on va dire. Parce que déjà, je suis dans mon métier obligée de lire beaucoup. Mais ça me, moi, j'aime bien lire, donc ça ne me gêne pas. Donc, je vais avoir tout ce qui va être lecture, on va dire, technique et scientifique. Et après, je vais avoir l'extrême. Parfois, je vais avoir besoin de lire, alors par exemple, un Lévi, parce que je vais avoir besoin de me changer les idées, ou un magazine, etc. Puis après, il va y avoir l'entre-deux, ou par exemple, un livre qui m'avait beaucoup plu, c'était La Tresse. Voilà, je vais avoir des livres plus engagés ou plus sérieux ou même plus tristes que je vais avoir envie de lire, alors que parfois je vais avoir besoin de légèreté, voilà, et de me faire plaisir avec un film français. Moi, j'aime beaucoup les films français. Parce que j'aime bien les films où on prend du plaisir et pas forcément les films de guerre, les films de bagarre, etc. Donc j'aime bien les acteurs français, j'aime bien Jean Dujardin, j'aime bien Sophie Marceau, j'aime bien Clovis Cornillac. Voilà, donc souvent je suis attirée par l'artiste, en fait, et je vais me dire, ah bah tiens, si c'est cet artiste, je vais regarder son film,
ça te donne envie, okay.
Parce que ça va me donner envie.
Dans les films français, les petites pépites que tu as aimées, qui t'ont marqué, soit récents, soit de films de chevet, je dirais.
Bah, il y en a plein, tous les films, là par exemple, ça va te faire sourire, mais moi, tous les films qui sont à la montagne, j'adore. Donc je vais adorer Les Belles et Sébastien, je vais adorer les films de, comment il s'appelle, de cet aventurier, Nicolas Vanier, je les connais par cœur.
Il y avait le Jaguar il y a pas longtemps, je crois, qui était le petit Jaguar qui est sorti.
Ouais, donc tout ça, j'adore, parce que ça m'évade.
Tu m'as pas dit Anatomie d'une chute.
Anatomie d'une chute,
parce que c'était à la montagne, c'était à Grenoble, mais c'est pas le plus gai. Il a eu le scénario là à l'Oscar, mais c'est vrai que c'est en tout cas un film qui a fait rayonner la France. Voilà, moi je pensais à Paris, c'est marrant, tu sais, le film de Cédric Clapiche avec Romain Duris, parce qu'il y avait l'exposition que Gustave Eiffel à Levallois, qui avait ses ateliers là-bas, et il y avait l'extrait du film de Gustave Eiffel, et il reparlait du film Paris avec Romain Duris, qui est un super film de Clapiche. Et donc, parfait. Et alors, la toute dernière question, alors c'est plus une question de transmission, comme tu es quelqu'un de très engagé dans ta vie professionnelle, on l'a senti, et aussi en management. Peut-être, je sais que tu as une doctrine, j'ai vu, qui t'inspire, j'aime bien, respirer, réfléchir et agir. Peut-être tu peux en parler un peu de cette doctrine, comment ça t'aide un peu dans ta vie de tous les jours. Et puis, parler un peu de ton travail d'équipe et ce côté manager, parce que voilà, tu diriges quand même une belle équipe. Voilà, toi, ce qui te guide et comment tu travailles, ce qui est important pour toi là-dedans.
Alors, effectivement, moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez hyperactif, active. Et donc, c'est pas un hasard si j'ai cette devise respirer, réfléchir et agir. Parce que je me l'applique déjà à moi. C'est-à-dire que comme je sais que j'ai pu aller vite, souvent dans ma vie, dans ma carrière, dans plein de choses, en fait, je me suis rendu compte que justement, il fallait pas confondre vitesse et précipitation, et que on avait deux cerveaux et qu'on avait le cerveau, on va dire limbique, hein, et le cerveau reptilien, et que du coup, bah, c'était important de laisser du temps au cerveau, on va dire, de l'intelligence. Pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et plus on évolue dans une entreprise, plus il faut prendre le temps de prendre la bonne décision. Même si on prend le temps, on peut prendre le temps rapidement. Mais je vais dire, voilà, il faut prendre ce temps-là, faire en sorte qu'on ne réagisse pas à chaud.
Ah oui, voilà.
Et donc, pour ne pas réagir à chaud, moi-même ou mes équipes, je me suis dit, et ça c'est mon papa qui m'a appris ça depuis toute petite, hein, qui m'a toujours dit, avant de faire quelque chose d'important, respire 5 fois.
Ah, c'est pas mal ça.
Et donc en fait, ça m'a marqué. Et comme j'étais une petite fille déjà très, voilà, très, très active, je l'ai fait. Et ça m'a beaucoup aidée ensuite dans ma carrière pour éviter de prendre des mauvaises décisions ou de réagir trop vite dans le jugement, dans la précipitation. Et du coup, ça aide à prendre des décisions. Et surtout, il faut savoir que quand vous prenez le temps déjà de respirer et de réfléchir, il y a 50% du problème qui est déjà résolu. Parce qu'en fait, ça, des fois, il y a des choses qui se résolvent toutes seules. Et donc, si vous dites, bon, ok, j'ai entendu le problème ou j'ai entendu le questionnement, ben, je vais prendre le temps de respirer et réfléchir. Et hop, là, il y a quelque chose qui se met en route, qui fait que d'une part, vous allez mieux réfléchir et si vous avez respiré, vous aurez plus d'oxygène et vous allez mieux réfléchir. Et puis, en même temps, les personnes à côté, ben, finalement, elles se sont déjà mises aussi en mouvement et le travail collectif va mieux se faire. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai cette devise-là et ça m'aide aussi dans le management de l'équipe et dans la conduite de l'entreprise. Parce que l'idée, des décisions, on doit en prendre tous les jours. Après, l'idée, c'est de prendre chaque fois sur 10 décisions, bah, d'en prendre 8 bonnes et 2 mauvaises, quoi. Parce qu'on va jamais avoir 10 sur 10. L'important, c'est le mouvement. L'important, c'est d'avancer. Mais après, il faut avancer en prenant le plus de bonnes décisions possibles par rapport aux moins bonnes décisions. C'est pour ça qu'il faut le faire dans de bonnes conditions.
Bon, intéressant ce que tu dis. Donc, tu arrives à faire ce pas de côté, à t'extraire parfois à la rapidité, évidemment, ou le stress auquel on peut être soumis. Toi, tu conseilles de prendre ce temps et voilà, de pouvoir se poser avant de décider.
Tout à fait. Et j'ai appris à gérer le temps. Et ça, d'ailleurs, je dois dire que la communication, les médias, vous m'avez beaucoup tous aidé. Vous m'aidez parce que j'observe comment vous faites ou comment les médias, parfois en radio où tout est timé, etc. Ben, je me dis, en fait, ils prennent quand même le temps. C'est pas précipité, je trouve. Et en fait, même si on doit donner une réponse, par exemple, le lendemain sur quelque chose, un dossier important, ben, on a quand même toute la journée pour prendre le temps de respirer, réfléchir. On a toute la nuit. Et en fait, c'est vrai, soit on le prend en se disant, oh là là, c'est déjà demain, c'est horrible, il faut prendre son vide, en disant, ben non, finalement, j'ai toute l'après-midi, j'ai la nuit, etc., j'ai le matin. Et en fait, quand on pense comme ça, on se dit, ben finalement, on voit pas, on se met pas en urgence. Et ça, c'est important.
C'est bien, ça fait du bien de t'écouter parce que c'est dans notre société où tout va super vite et où parfois le stress prend le pas. Bah là, on entend ta sérénité, hein, ce qui fait du bien par les temps qui courent. Et en plus, ça boucle la boucle sur le côté santé. Sur l'équipe, quand même, les deux, trois grandes... Et puis, c'est la dernière question sur l'aspect transmission aussi aux jeunes générations. Toi, vraiment, tes mantras ou les choses très importantes pour toi sur le travail d'équipe, bah, pour emmener les entreprises en ce moment, on le sait, dans un contexte en Europe qui est pas le plus folichon. Comment toi, qu'est-ce qui est le plus clé pour toi de ce que tu as découvert?
En fait, il y a deux choses clés. Déjà, je pense que les gens de mon âge, c'est important d'être disponible pour eux. Ils vont pas forcément le demander, mais c'est juste les jeunes. Mais quand ils nous demandent, il faut être là. Alors moi, je le fais avec mes enfants, mais je le fais avec les étudiants, par exemple, de l'EM Lyon ou d'autres étudiants qui me demandent. Par exemple, là, je suis intervenue pour la journée des droits de la femme, le 8 mars. J'étais impressionnée parce qu'il y avait autant, d'ailleurs, presque de garçons que de filles. Et ils m'ont demandé s'ils pouvaient venir au laboratoire. Ben, j'ai tout de suite dit oui. J'allais dire, voilà, donc, comme disent mes enfants, t'es une yes woman. Parce qu'il y a le film Yes Man, mais ils me disent, nous, on a une Yes Woman. Donc, je dis tout le temps oui. Quand on me demande, voilà.
Toujours disponible.
Oui, toujours disponible pour donner un peu de temps, des idées, feedback, etc. Et ça, je pense que c'est important pour les jeunes générations. Ils prennent pas, mais en même temps, s'ils ont demandé, parce que je leur dis toujours, 99% des personnes qui ont obtenu de l'aide en ont demandé. Donc, demander de l'aide. Et la deuxième chose que je peux dire et qui m'aide beaucoup et qui peut aider les jeunes, c'est de dire « mauvaise chance, bonne chance ».
D'accord.
C'est un peu une autre manière de dire « il faut honorer ses erreurs hein. ». On va pas toujours, ça va pas toujours aller droit. Hein. C'est pas forcément une échelle qu'on monte, c'est une cage qu'on escalade, comme dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Sheryl Sandberg. Mais en fait, voilà, mais je le vois vraiment comme ça. Quand on veut escalader une montagne, ben, on va pas direct, hein. On va, moi, je fais pas mal de ski de rando, ben, on fait des zigzags, hein. On monte pas tout de suite, tout droit, sinon on va être vite essoufflé. Et puis, on peut même mettre sa vie en danger. Donc c'est pareil, il faut savoir où on va, mais il faut prendre le temps d'y aller. Puis, des fois, ça marche pas. Eh ben, on prend un autre chemin, etc. Donc, c'est d'où le mauvaise chance, bonne chance. Parfois, OK, ce chemin-là, ben, il amène à une impasse. Ben, c'est peut-être parce qu'il y a un autre chemin qui va être meilleur et qui va finalement vous permettre d'aller plus vite, plus haut. Donc, et comme ça, petit à petit, en ayant ce mindset, on veut dire, cet état d'esprit, eh bien, déjà, on vit mieux les choses, on vit mieux les échecs. Et on sait que, et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des sportifs, des autres chefs d'entreprise qui le disent aussi, que c'est parce qu'on a eu certains échecs, qu'on a eu certains déboires, bah, qu'on fait mieux la prochaine fois.
Bon, bah, sur la ténacité, évidemment, qui est un point qui est beaucoup revenu dans le podcast. Et le sport, c'est intéressant que tu aies mentionné la randonnée. C'est vrai que la direction d'entreprise et le sport, tu peux en parler un petit peu, mais il y a des vraies valeurs en commun. Dans une année sous le signe du sport en France.
Oui, tout à fait, avec les Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que diriger une entreprise, c'est un sport, hein. C'est un sport quasi de haut niveau parce que il y a des moments où il faut donner à fond. Il faut tout donner parce que ben, c'est maintenant qu'il faut le faire. Hein. Si on ne saisit pas la balle au bon quand il y a une opportunité, il y a quelque chose, il faut le faire. Donc, il faut tout donner. Il faut aussi être les meilleurs, parfois. Il faut savoir prendre les bonnes décisions, faire les bons gestes, etc. Et puis aussi, il faut savoir avoir des temps de récupération.
Oui, tu l'as dit sur le temps. Je pensais à jouer le côté optimiser tout le temps. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est similaire à ce que pourrait dire un sportif pendant un match, de vraiment utiliser tout le temps qu'il a à dispo.
Oui, c'est pas quand le match, enfin, ça a sifflé, les 90 minutes sont passées qu'on va marquer un but, hein. Donc, c'est vrai que c'est pendant le match qu'il faut jouer. Mais en dehors du match, ben, il faut savoir aussi s'entraîner, aller chercher des conseils, se reposer. C'est pour ça que je fais souvent ce parallèle parce que c'est la même chose pour un chef d'entreprise. S'il reste uniquement tout le temps en tension, comme s'il était tout le temps un match, eh ben, c'est vrai que ses équipes vont être fatiguées. Hein. Et s'il sort pas un peu et qu'il a pas des coachs et qu'il fait pas d'autres choses pour s'entraîner, en fait, ça va. Et pour avoir des idées aussi de type de tactique, ça va être plus difficile.
Bon, bah super. Bah, je crois qu'à la fois les entrepreneurs, les directeurs de grandes entreprises ou même les jeunes recrues dans les entreprises auront beaucoup apprécié ton témoignage. Merci beaucoup, Valérie. C'était un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast.
Avec plaisir. Bonne journée à tous.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.